hors champ. Hors-champ avec Pierre Rosanvallon, première émission. Pierre Rosanvallon, vous êtes historien, sociologue, professeur au Collège de France, auteur de très nombreux livres. Le premier s'intitulait « Sous votre nom », parce qu'on reviendra sur le tout premier qui n'était pas sous votre vrai nom. C'était « L'âge de l'autogestion ». Ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de livres qui portaient à la fois sur l'économie, sur la politique. Je citerai « Le capitalisme utopique »,« La crise de l'État-providence »,« Misère de l'économie ». Et puis, il y a eu des livres aussi qui sont restés dans notre mémoire comme très importants, notamment Le Moment Guizot, L'histoire de la civilisation en Europe, La question syndicale qui vous a occupé pendant toute une partie de votre existence et qui vous concerne sans doute encore aujourd'hui. Il y a eu plus récemment Les révolutions invisibles, La démocratie inachevée et puis ce livre très important qui s'intitule Le bon gouvernement. On va parler de votre itinéraire intellectuel, de votre engagement politique, mais je voudrais qu'on commence par votre enfance et votre éducation. Parce que si on connaît vos théories, on ne connaît pas votre histoire.
Ben, mon enfance, je suis né à Blois, c'est une ville du centre de la France. Une ville moyenne. Mon père était ingénieur, ma mère était professeur. Ma mère était militante syndicale, mon père se définissait comme gaulliste social. Mais j'ai été éduqué dans une famille qui était marquée tout de même par tous les souvenirs de la guerre. Mon père était prisonnier, a fait son service militaire, a été prisonnier pendant 5 ans. Il était officier, il était jugé comme récalcitrant par un tribunal allemand, donc il a vécu dans des conditions difficiles dans une forteresse en Pologne. Ma mère a été aussi mise en prison parce qu'elle faisait passer clandestinement la ligne de démarcation à des personnes. Je suis né dans une famille pour laquelle le sentiment, je dirais, de la dette qu'on avait vis-à-vis de la société était quelque chose d'important, et le sentiment aussi d'avoir vécu des choses un peu graves. Et du coup, je n'ai pas du tout été éduqué comme devant être simplement un bon élève. Ma mère était une professeure agrégée de physique, son père était militaire, et elle aurait adoré faire de l'allemand. Et à la maison, elle chantait même souvent des poèmes allemands, mais son père lui a dit non, pas du tout, il n'y a que la science qui compte. Donc elle est devenue professeure de physique et elle a gardé de cette espèce d'obligation que lui avait imposé son père, un sentiment qu'elle devait éduquer ses enfants dans le sens d'une liberté où ce qui était important, ça n'était pas la vie scolaire, même s'il fallait bien sûr la mener à bien, mais c'était la vie tout court, je dirais. Donc, je n'ai jamais été dans une maison où on forçait les enfants à bien travailler. Il y avait une atmosphère, je dirais, qui était plus une atmosphère où le but était de chercher à avoir une vie bonne, on pourrait dire. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours été j'ai fait mes études normalement, comme à cette époque-là, j'ai eu mon baccalauréat à 17 ans. J'étais dans une préparation HEC de la région parce que ça permettait de ne pas choisir. À l'époque, il y avait autant de sciences que de lettres. Et puis à l'époque, on pouvait en un an rentrer dans cette école. Donc j'ai terminé mes études à tout juste 21 ans. Je suis sorti de l'HEC à 21 ans avec toute une histoire de ma jeunesse et de ma vie d'étudiant qui était une histoire plus marquée, je dirais, par le souci d'action collective ou le souci militant au sens large que simplement le souci d'être, entre guillemets, le bon élève.
Dans quelles conditions s'est fait votre service militaire ?
J'étais...
Est-ce qu'il a marqué votre itinéraire ?
Un peu, sans que ce soit exceptionnel, parce que j'étais un seconde classe ordinaire, mais j'ai fait mon service militaire comme une parenthèse, alors que j'étais déjà permanent CFDT. Je suis devenu...
C'est pour ça que vous avez publié votre premier bouquin sous un pseudo.
Exactement, parce que j'ai connu des responsables de la CFDT en 1968, et pour gagner un peu d'argent de poche, j'ai fait des études pour la CFDT quand j'étais en dernière année de HEC. J'ai fait des études sur l'imposition du capital, j'ai fait des études sur les transformations de l'économie de marché dans la Hongrie, qui apparaissait à l'époque comme un modèle, entre guillemets, d'un socialisme de marché, une troisième voie, en quelque sorte, entre capitalisme et puis planification soviétique. Et donc, très rapidement, il m'avait proposé de les rejoindre, mais j'avais tout juste 21 ans, et à l'époque, on était tout de même obligé de faire son service militaire. Et donc, 2 ans après, j'ai fait une parenthèse d'un an pour... et j'étais conducteur de véhicules. Et bah, le service militaire, à l'époque, c'était tout de même la possibilité de rencontrer des gens extrêmement différents. Et c'était quelque chose de positif en ce sens-là. Mais je ne voudrais pas non plus donner l'impression que c'était une forme de découverte sociale. Parce que quand on était étudiant dans une grande école, à cette époque, il y avait une tradition de faire des stages ouvriers. Et moi, quand j'avais donc 21 ans, j'ai fait un stage de 2 mois comme ouvrier chez Renault. J'ai été OS sur une chaîne de sellerie.
Donc bien avant ce qu'on a appelé les établis.
Bien sûr, bien avant les établis. À l'époque, il y avait cette tradition qui existait notamment dans les écoles d'ingénieurs. C'est l'école des mines qui avait lancé ça en disant pour diriger des mines, il faut avoir été à la mine au charbon. Et maintenant, c'est quelque chose qui a vraiment disparu, mais HEC avait
peut-être
gardé...
Dommage que ça ait disparu.
Certainement. HEC avait gardé cela encore. Beaucoup d'élèves essayaient d'échapper à cela en faisant des stages en entreprise tout à fait ordinaires. Et moi, il m'avait semblé intéressant d'aller au cœur de ce qu'on appelait à l'époque la forteresse ouvrière et découvrir un monde social qui, pour le coup, m'était vraiment étranger.
Alors, la philosophe Simone Veil avait fait ça bien longtemps avant vous. En avez-vous retiré aussi une sorte de philosophie du travail et de définition de l'asservissement au travail comme impossibilité de penser cette domination du travail?
C'est-à-dire que c'était en 1966. Moi, j'étais en première année, je n'avais même que 18 ans quand j'ai fait ce stage ouvrier de 2 mois. Et à ce moment-là, c'était le travail classique à la chaîne. Le travail à la chaîne où il y a un véhicule qui avance et il fallait, en tout cas pour moi c'est la tâche que j'avais, ce qu'on appelait l'atelier de sellerie, mettre une serrure à la porte avant droite, à la porte arrière droite et une fois sur deux au haillon arrière. Donc il fallait assembler 3 petites pièces, les glisser dans un trou et avec un pistolet pneumatique donner 2 tours de vis. Et si jamais on ratait, il y avait un régleur en fin de chaîne, mais il y avait quand même une vraie cadence. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir, il y avait un monde immigré qui était très présent à l'époque. Il y avait peut-être au moins 60% de personnes qui étaient immigrées sur la chaîne. L'entreprise, d'ailleurs, mélangeait les nationalités pour que les gens ne fassent pas corps, pour les isoler d'une certaine façon. Et pour moi, c'était la découverte de ce qui était, en quelque sorte, à la fois des formes d'asservissement, mais aussi des formes de résistance à cet asservissement. Comment, par exemple, on se donnait un coup de main si quelqu'un voulait aller fumer une cigarette entre 3 minutes, eh bien, quelqu'un faisait son boulot en mettant les super bouchées doubles pendant ce temps-là. Il y avait aussi le temps de la cantine où on parlait, on découvrait les gens. C'était la grande différence aussi avec en entre les ouvriers traditionnels français et puis des ouvriers immigrés qui, pour eux, c'était arrivé à quelque chose d'avoir été embauché dans une grande boîte comme Renault. Une chose qui m'avait frappé à l'époque, parce que j'avais dû rédiger un rapport de stage d'une centaine de pages, un peu d'observation, c'est que les ouvriers français avaient à l'époque ce qu'on appelait la musette, c'est-à-dire un petit sac en toile qu'on mettait sur l'épaule, où on mettait sa nourriture du midi, alors que la plupart des travailleurs immigrés, qui étaient nord-africains pour l'essentiel, hein, algériens, tunisiens ou marocains, ils venaient avec des attaché-caisses en plastique, avec les sandwichs sur l'attaché-caisse en plastique, parce que pour eux, justement, c'était une promotion d'être venu là. Et peut-être que ce stage m'a donné une forme de curiosité sociale, disons.
Comment avez-vous traversé mai 68 et comment considérez-vous cet événement aujourd'hui en 2016?
J'avais, moi, 20 ans en 1968. Donc l'événement a vraiment été important pour moi. Mais je dirais que j'ai vécu un mai 68 différent de celui des livres. Dans les livres, on ne parle que mai 68 vu de la rue d'Ulm, mai 68 vu du point de vue de petits groupes maoïstes, trotskistes, d'intellectuels connus, alors qu'il y a eu une sorte de mai 68 à la base. Ce mai 68 à la base, autour de thèmes anti-hiérarchiques, anti-autoritaires, de prise de parole. Et moi, je n'ai pas vécu le mai 68 ni héroïque, si je puis dire, des grands dirigeants qui faisaient la une des médias, ni le mai 68 des organisations pures et dures. J'ai vécu un mai 68, d'autant plus que près d'HEC, il y avait tout de même sur le plateau de Saclay tout un ensemble d'entreprises, et il y avait eu des conférences communes à l'époque, ça se faisait entre ouvriers et étudiants, mais pas du tout dans l'ambiance un peu dogmatique qu'il y avait dans certains milieux maoïstes et trotskistes. Donc pour moi, c'était un 68 ordinaire, et je trouve un petit peu dommage qu'aujourd'hui l'image de 68 soit polarisée entre, d'un côté, celle de petits groupes minoritaires, un peu de sommet de la société, je dirais, et puis de l'autre côté, une critique qui ne voit dans mai 68 que le déferlement de plaisirs absolument incontrôlés, l'hédonisme sans frontières. Non, entre l'hédonisme sans frontières et puis le militantisme dogmatique, il y a eu un mai 68 ordinaire, si je puis dire, qui est un mai 68 d'émancipation, un mai 68 de réflexion, un mai 68 de prise de parole. Et je crois que c'est ce mai 68-là qu'il faut regarder, parce que c'est lui qui a produit des effets positifs dans la société française.
Mais c'est peut-être à partir de ce moment césure de l'histoire que vous avez commencé à réfléchir intellectuellement et politiquement dans vos ouvrages, Pierre Rosanvallon, parce que vous avez été l'un de ceux qui, les premiers, avaient tenté de cartographier, finalement, l'autre définition de l'autorité.
Oui.
L'effondrement de la hiérarchie. Trouver une autre manière de travailler ensemble sans passer forcément par la domination hiérarchique.
Bien sûr, parce que l'idée étant justement de vivre et dans une organisation, dans une association, dans un atelier ou dans une université.
Et d'ailleurs, vous l'avez fait intellectuellement et pratiquement aussi, car vous avez travaillé dans le tissu associatif.
Voilà, j'ai travaillé dans le tissu associatif, et quand j'étais étudiant, j'étais un des responsables de ce qu'on appelait l'Union des grandes écoles, qui était l'UNEF pour les grandes écoles. Et donc, j'ai animé bien des assemblées générales. Et comme animateur d'assemblées générales, j'ai vu aussi ce que voulait dire la manipulation d'un groupe. J'ai vu aussi ce que voulait dire le fait qu'une minorité impose sa vision. J'ai vu ce que voulait dire la démagogie. Et donc j'ai compris dès ce moment-là que on ne mettrait pas en place une société plus autogestionnaire, pour employer le mot de cette époque, sans réflexion simultanée sur ce qui était un empêchement à la démocratie, sur ce que j'ai appelé d'un mot un peu savant à l'époque, mais l'entropie de la démocratie, c'est-à-dire comment il y a une espèce de dégradation d'énergie démocratique. Et moi-même, j'ai voyagé, étant étudiant, dans des pays d'Amérique latine, j'ai été aussi un peu plus tard en Israël, visiter des kibboutzim, voir justement comment des expériences collectives s'essoufflaient. comment elles étaient reprises par le dogmatisme ou par la démagogie. Et au fond, j'ai eu une aversion très tôt pour les visions de la politique et de la démocratie qui pensaient qu'il suffisait d'affirmer des bons principes pour que ça fonctionne, qu'il fallait en même temps réfléchir aux conditions dans lesquelles la démocratie se retournait contre elle-même, la façon dont elle pouvait être confisquée, la façon dont elle pouvait être dévoyée. Et je me suis intéressé intellectuellement très tôt, justement, à tous ceux qui, dans les débuts de la sociologie du XIXe siècle, ou parfois même dans des écrits un peu militants, avaient réfléchi justement sur les racines et les mécanismes de ce dévoiement.
Nous allons écouter la voix d'un grand intellectuel, aujourd'hui hélas un peu trop méconnu, qui a été très important dans votre itinéraire. Nous allons écouter la voix de Claude Lefort au micro de Antoine Spir. Il va définir le totalitarisme. C'est une archive du 3 novembre 1992.
Comme sous sa version fasciste ou nazie, le totalitarisme advient d'une révolution antidémocratique. Ou bien disons, c'est un mouvement qui se dit d'ailleurs révolutionnaire, dont la cible est la démocratie. C'est pour ça que c'est très difficile de parler du totalitarisme sans parler de la démocratie. La démocratie est ce système, ce n'est pas un terme qui me plaît, ce régime, je dirais d'une façon plus neutre, cette forme de société dans laquelle la division est tacitement admise. Il y a une division, disons, entre ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Il y a par là même une division entre l'instance du pouvoir et ce qui relève de la justice, l'instance de la loi, ce qui relève des diverses sphères d'activité, le secteur, disons, de la connaissance, de l'action. Et il y a une division, ou des divisions de classe et de catégories sociales en général, qui, encore une fois, sont tacitement admises. Il y a reconnu une pluralité d'intérêts, une pluralité de croyances, une pluralité d'opinions. Or, qu'est-ce qui fait, ne parlons que du communisme, mais parlons-en dès le léninisme, ce qui fait la singularité du léninisme, c'est que il exacre tout ce qui est signe de division. Il ne faut pas oublier que le léninisme n'a pas surgi seulement de, je dirais, l'écrasement des institutions bourgeoises, de la démocratie bourgeoise, de la démocratie parlementaire. J'en prends les termes, n'est-ce pas, qui étaient employés par les bolcheviks eux-mêmes quand je parle de démocratie bourgeoise. Il ne faut pas oublier qu'il n'a régné que par la suppression de la démocratie soviétique au sens vrai, original du terme, c'est-à-dire de la démocratie des conseils, de la démocratie des comités d'usine.
Nous venons d'entendre la voix de Claude Lefort et je pense que quand on regarde votre itinéraire, Pierre Ranzan-Vallon, et quand on relit certains de vos livres, notamment Le Bon Gouvernement et d'autres aussi, on se dit que cet homme a été très très important, à la fois pour les idées novatrices qu'il a apportées en tant que philosophe du politique, et à la fois par la revisitation salutaire de certains penseurs du XIXe siècle.
Oui, exactement. Claude Lefort m'a plu pour deux raisons. Je me suis rapproché de lui à une période où je me suis aussi rapproché de Cornelius Castoriadis pour sa droiture morale aussi. C'était une belle personne qui ne
Parce que c'était un temps, il faut le rappeler, où les intellectuels étaient très engagés idéologiquement. Et voilà. Castoriadis et Lefort se sont dégagés des gangs idéologiques politiciennes.
Ils n'ont pas été simplement des bons petits soldats. Ils n'ont pas été des idéologues. Ils ont été vraiment des aventuriers de la pensée, en pensant qu'il fallait repenser à neuf tout un ensemble de choses. Et donc je me suis trouver tout à fait dans cette attitude intellectuelle. Et sur le fond du contenu intellectuel, là, de Claude Lefort, si je m'en suis rapproché, c'est que justement, son analyse du totalitarisme, et je pense que avec Hannah Arendt, il a été un des principaux théoriciens, je dirais même, pour moi, son œuvre sur ce point de l'analyse du totalitarisme est même intellectuellement supérieure à celle de Arendt, m'a beaucoup intéressé.
Pourquoi? Parce que pourquoi vous dites ça?
Comment? Bah parce que
il va plus loin.
Oui, il va plus loin pour comprendre comment justement le totalitarisme naît de l'intérieur même de la démocratie. Comment c'est un retournement de la démocratie contre elle-même et quelles sont les formes de ce retournement? Bah c'est justement quand on prétend être le peuple même. Il y a, c'est toute l'analyse qu'il a fait de l'île de Soljenitsyn, le totalitarisme commence quand on substantialise le peuple, en disant il y a un peuple, et ce peuple est exprimé par la classe, cette classe est exprimée par le parti est exprimé par le comité central, et le comité central est exprimé par le premier secrétaire. Et donc le premier secrétaire peut dire, c'est la formule de Trotsky, nous sommes plus forts que Louis XIV, nous ne disons pas simplement l'État c'est nous, mais la société. C'est nous. Et toute l'analyse justement de la du totalitarisme et celle des conditions dans lesquelles, en prétendant dépasser la démocratie bourgeoise, on supprime, je dirais, les fondements même de la démocratie, à savoir le fait de rendre une société capable de se guider elle-même, de délibérer. Le sens de la délibération disparaît dans la vision, je dirais, des pouvoirs totalitaires, derrière celle d'une science que posséderait le parti, une science de la société, et qui lui permettrait légitimement de guider et de diriger cette société. Donc pour la génération de Claude Lefort, cette question du totalitarisme était centrale, parce que beaucoup d'entre eux ont été soit communistes à un moment, soit proches du communisme. Lefort n'a pas été communiste, il a été trotskiste tout de même. C'était déjà une forme de critique par rapport au léninisme, mais qui restait inscrit tout de même dans une vision du parti organisateur de la société, de la vie sociale. Et Castoriadis avait été communiste, comme de très nombreux intellectuels français. Et donc pour cette génération, la critique du totalitarisme était décisive. Et chez lui, ce qui était important, c'est que la critique du totalitarisme ne menait pas simplement à dire « Bon, ça a été un épisode affreux, vive la démocratie bourgeoise, reposons-nous tranquillement dans la démocratie parlementaire. » Il était à la fois un critique impitoyable du totalitarisme, mais à la recherche extrêmement exigeante, justement, d'une autre forme, et c'était pareil pour Castoriadis d'ailleurs, d'une autre forme de démocratie réellement vivante, d'une démocratie pluraliste. Alors, moi, je n'ai pas été communiste, mais j'ai appartenu encore à une génération pour laquelle, justement, la compréhension de la destruction par l'intérieur de la démocratie était quelque chose de décisif. Je pense que maintenant, nous sommes dans un autre cycle, dans une autre période, mais dans ces années 1960...
Où la démocratie est peut-être encore plus menacée qu'à l'aube des années 70.
Voilà, mais elle est menacée par autre chose. Elle est menacée par, même si le mot est très vague, mais elle est menacée par des formes de populisme, c'est-à-dire de prétention à être l'expression de la société aussi. Alors, sous des formes moins meurtrières, bien sûr, que l'était le stalinisme, mais sous une même prétention à l'appropriation de la parole sociale et de la possession, en quelque sorte, de ce qu'est substantiellement le peuple.
Mais n'avez-vous pas cru, dans ces années-là, ces années 70-80, que la possibilité de l'expression de la démocratie passait par, justement, ce que les ouvrages que vous avez publiés, c'est-à-dire l'autogestion et la possibilité dans la société de pouvoir représenter ses propres droits à l'intérieur de syndicats qui aujourd'hui, hélas, ont de moins en moins de représentativité. Est-ce que cette aspiration a été pour vous concrètement une possibilité de traduction d'une réalité plus démocratique? Que vous êtes revenu de vos illusions?
Je dirais, non, je ne suis pas revenu de mes illusions, parce que je pense que pour une bonne part, tout le programme, pourrait-on dire, intellectuel général de 68 est toujours quelque chose qui est devant nous. ça n'est pas quelque chose qui est à mettre à la poubelle, c'est quelque chose qui est encore devant nous. Mais avec une distinction importante, c'est que dans les années 70, il y avait tellement une politique traditionnelle confisquée par des partis qui étaient complètement ossifiés, que les voies, en quelque sorte, du renouveau, c'était autour de l'animation d'un terme qu'on a beaucoup employé à l'époque, la société civile. C'est-à-dire faire vivre le monde associatif, faire vivre le monde syndical, développer la société civile comme lieu d'initiative, comme lieu aussi d'organisation, qui montre des modalités différentes d'action, de décision collective, de discussion. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été en quelque sorte des militants de la société civile dans ces années-là. Et en pensant peut-être un peu trop facilement que cette société civile rénovée suffirait à rénover la démocratie. Et je me suis rendu compte progressivement qu'il fallait aussi développer un autre programme. C'est une réflexion sur les institutions démocratiques elles-mêmes. Et qu'une société civile vivante et active ne devait pas conduire à faire l'économie d'une réflexion sur les institutions et les formes politiques elles-mêmes. Et c'est pour cela que, après mes travaux des années 70, qui ont été d'une manière ou d'une autre des travaux sur la société civile, disons, et le terme de autogestion était l'indicateur de cela, j'ai pensé qu'il fallait lancer un travail de fond pour recomprendre justement l'histoire un peu chaotique des institutions représentatives. Et c'est pour cela que j'ai fait un livre sur le suffrage universel, un livre que j'appelais « Le peuple introuvable », pour montrer justement que le peuple est le sujet de la démocratie, mais qu'il est un sujet en même temps présent et évanescent. Il est le peuple évident dans la manifestation, il est le peuple que l'on peut dire évitant à certains moments d'expression, mais en même temps il se dérobe aussi et personne ne peut dire le posséder. Donc la démocratie est toujours une quête de faire exister un sujet dont la constitution et la représentation est en même temps problématique. La souveraineté est le mot d'ordre évident, mais comment faire vivre la souveraineté sans qu'il y ait une confiscation de l'énergie démocratique par des pouvoirs ou des institutions. Donc après une période de mon travail qui était centrée sur, je dirais, les conditions de structuration et d'animation de la société civile, et je crois que ces années 70 ont vraiment apporté beaucoup de neuf de ce point de vue-là, j'ai pensé après qu'il était indispensable de compléter cette vision par celle d'une réflexion sur la reconstitution, la recomposition et la réinvention des institutions démocratiques. Et au fond, c'est ce que j'ai fait à la fois dans cette trilogie qui s'appelle « Le sacre du citoyen »,« Le peuple introuvable » et puis « La démocratie inachevée ». Et puis après, la tétralogie que je viens de terminer, qui s'est terminée par ce livre que vous avez mentionné, le Bon Gouvernement, paru récemment.
Mais avant, il y a eu d'autres livres importants, comme celui intitulé « La contre-démocratie ». Est-ce que vous acceptez ce terme, qui aujourd'hui paraît un peu suranné, d'intellectuel engagé ?
Oui, il me semble, il correspond à la fois en quelque chose. Mais ce que je n'aime pas, c'est que le terme « engagement », il est extrêmement vague. Que veut dire « engagé » ? Est-ce que engagé veut dire signataire de pétition? Est-ce que engagé veut dire être le petit soldat d'une organisation? Si je devais définir la fonction, je dirais pas de l'intellectuel engagé, je dirais de l'intellectuel démocratique. L'intellectuel démocratique, ça n'est pas simplement celui qui met sa petite notoriété, s'il en a une, au service d'une cause. L'intellectuel démocratique, c'est celui qui aide à forger des outils de compréhension. Des outils qui deviennent des instruments d'émancipation. Je dirais que la définition pour moi de l'intellectuel démocratique, c'est un producteur d'outils d'intelligibilité du monde et un producteur, en quelque sorte, d'éléments pour rendre possible ou davantage possible des formes d'émancipation.
Merci Pierre-Rosan Vallon, merci à Stéphane Desmonts, Véronique Villa, Corinne Amar, Samuel Bernard et Élodie Royer. Vous écoutez France Culture et nous, on se retrouvera demain.